Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Alors, vous êtes bien sur Oblique et c'est déjà la 10e. Alors,
bonjour.
Bonjour.
Bonjour Justine, bonjour Yann. Alors aujourd'hui, on est en équipe un peu réduite puisqu'on notera l'absence de Victor, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir un programme chargé. Alors Yann, de ton côté, tu vas nous parler donc de...
Christophe Pendeleschki pour la partie musicale, la partie son, l'audioblique.
Et puis il y aura une interview de Bertrand Mandico. Oui. Quant à moi, concernant l'actualité, je vous parlerai d'un film anglais, Ali et Ava, de Clio Barnard. Et si nous avons le temps, on pourra vous donner éventuellement un conseil. En attendant, on retrouve Justine pour l'agenda de la semaine du 23 au 30 mars.
C'est ça. No one knew better than McCain that they'd get him all the same. Bonjour tout le monde, pas mal de choses diverses et variées cette semaine. On commence avec le vendredi 25 mars à 20h, le cinéma Utopia projettera le film Pense à moi, un film réalisé par Cécile Lattel qui sera présente à cette séance en compagnie d'Olivier Grenapin, un collaborateur artistique et monteur du film. Ce film documentaire nous fait découvrir le quotidien de personnes migrantes pour la plupart dans une communauté Emmaüs à Montauban. Dimanche 27 mars à 10h30, toujours au cinéma Utopia, il y aura la projection du film Animal de Cyril Dion. La séance sera suivie d'un débat avec Benoît Prévost, maître de conférence en économie spécialisé sur la question du circuit court. Et si vous avez un petit creux après la séance, il y aura sur place des producteurs locaux qui vous feront goûter leurs produits authentiques. Mardi 29 mars, à la Maison pour tous Louis Feuillade, l'association Kino Montpellier organise, à partir de 19h30, une soirée court-métrage autour du thème « Dernière chance ». Et si, à tout hasard, vous avez vous-même un court-métrage à proposer sur ce thème, vous pouvez envoyer votre film jusqu'à 2 jours avant la soirée projection. Juste petite précision, les films doivent faire entre 30 secondes et 10 minutes et doivent être au format DCP. Mercredi 30 mars, rendez-vous à partir de 18h à l'Esprit Réquipe, situé au 465 avenue Jean Mermoz, qui nous propose, en partenariat avec l'association Station Transition, des projections de courts-métrages à propos de la montagne et sa biodiversité. La séance sera suivie d'une table ronde autour des écosystèmes montagneux. Jeudi 31 mars à 17h, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau projettera 2 films de Jean Rouche, Les Maîtres Fous et La Goumbée des Jeunes Nosseurs, puis seront suivis d'un débat. Cinéaste et ethnographe, Jean Rouche nous fera découvrir à travers ces 2 films, situés entre tradition et adaptation au monde moderne, certaines pratiques rituelles au Ghana et en Côte d'Ivoire. Toujours le 31 mars, mais cette fois à 20h, le ciné-club Jean Vigo projettera un film emblématique de la nouvelle vague britannique, La solitude du coureur de fond de Tony Richardson. Ce film, adapté d'une nouvelle de l'écrivain Alan Silito, nous peint le portrait d'un jeune homme pratiquant la course de fond qui s'évade en rêverie de son morne quotidien durant ses courses solitaires. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à très bientôt.
Merci Justine. Et tout de suite, direction donc vers l'Angleterre pour une rom-com sociale. Feel Good Movie singulier, Ali et Ava racontent la rencontre entre Ali, pakistanais issu d'un milieu aisé, et Ava, mère de famille ayant des difficultés à joindre les deux bouts. Ils font la connaissance à l'école en raison de l'affection qu'ils portent tous deux envers Sofia, la fille de locataire slovaque dont Ava est l'assistante sociale. Alors tout de suite, en dépit de leurs différences, le courant passe. Lui est un homme cultivé, plein d'humour et travaillé de l'intérieur. Il aime la nuit venant danser sur les capots de voiture en écoutant de l'électro. Quant à Ava, elle attire Ali par sa générosité, son humanité et sa douceur. caractère en adéquation avec la musique qu'elle affectionne, le folk. Une de leurs premières discussions, d'ailleurs, tourne autour de leurs goûts musicaux très opposés lors d'un échange très drôle, teinté de moquerie et de bienveillance mêlée. Un lien profond les attire au-delà des différences, ce qui les unit, la solitude. Mais ce serait réducteur de les enfermer dans ce prisme trop évident. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais le passé douloureux pour Ava et la situation complexe de Ali ternissent leur idylle, qui a pourtant tout pour s'épanouir. Le suspense dénué d'une forte dramaturgie sur les tenants et aboutissants de cette love story s'avère rapidement balayé par le ton résolument optimiste, ce qui fait la gentillesse des héros le moteur du long métrage. La réalisatrice, Cléo Barnard, saisit au plus près la ténacité de ces doux combattants qui ne cessent de se battre pour être heureux, en dépit de blessures anciennes et d'obstacles présents.
3, 2, 1, go.
Cet optimisme se traduit également par la vision positive de Bradford, hein, généralement dépeinte comme une ville post-industrielle déprimante où règne la pauvreté. Alors dans cette romance sociale où les problèmes ne sont pas éludés, comme la notion d'identité, de rapport de classe, la réalisatrice du géant égoïste s'attarde sur les liens que les individus tissent entre eux, sur l'importance de la solidarité familiale, de l'entraide. Le titre n'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre de Rainer Werner Fassbinder, Tout le monde s'appelle Ali, ce qui est une référence directe. Dans les deux cas, il s'agit d'une histoire d'amour. Ali et Ava en seraient la version allégée, sans la dimension mélodramatique et politique surtout. Très vite pour le spectateur, il apparaît naturel que Ali et Ava se trouvent bien et peuvent avancer ensemble. Les qualités habituelles du cinéma anglais sont au rendez-vous, à savoir une écriture fine, une manière de croquer des silhouettes crédibles jusqu'au moindre figurant et, dans la continuité, une direction d'acteur exceptionnelle. Claire Rusbrock, déjà aperçue dans Secrets et mensonges de Mike Lee, et Adil Akhtar composent des personnages attachants. Surtout, ils parviennent à créer une complicité, une alchimie et un récit finalement convenu de comédie romantique moderne. La mise en scène est fonctionnelle, attachée aux conventions naturalistes, un peu comme dans les films de Ken Loach. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais au moins elle est juste, en accord avec le sujet. Chloé Barnard filme très bien les visages, sans aucune artificialité. Et puis aussi la ville qui est très très bien mise en valeur. Modeste et tonique, même si on aimerait voir plus de cinéma à l'écran, Ali et Ava est une jolie histoire d'amour, plus rêveuse que sociale en fin de compte. Ce qui en fait son charme. Le film est désormais à l'affiche au cinéma Utopia à partir du 23 mars.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same and they made him pay the price.
Et tout de suite, je laisse la parole à Yann pour présenter l'univers bizarre et poétique de Bertrand Mandico.
Voilà, pour l'interview, pour ce numéro d'Oblique, je me victorise, je remplace Victor pour présenter l'interview qui est celle de Bertrand Mandico. Interview qui a été réalisée par Olivier Rossignol de Culture au Point. Et donc, c'est une interview assez passionnante, elle est dense, beaucoup de thématiques sont abordées. Et on vous la propose dans Oblique en deux parties. La première partie, aujourd'hui, plutôt autour du film After Blue, puisqu'évidemment, l'interview a été réalisée à l'occasion de la sortie du film After Blue, il y a quelques semaines de cela. Donc une première partie de l'interview, un montage autour de ce film plus particulièrement, sa fabrication, sa genèse, son contexte, tous les thèmes abordés, enfin un certain nombre de termes abordés dans ce film assez passionnant. Et puis une deuxième partie, donc la semaine suivante, on verra ça autour plutôt plus général sur le cinéma de Bertrand Mandico, sur sa propre mythologie, sur ses références, sur le cinéma des autres aussi. Voilà, donc on va écouter tout de suite, interviewé par Olivier Rossignol, Bertrand Mandico.
Alors, ce qui a changé depuis 18 ans, c'est moi, pour commencer. J'ai une évolution cinématographique qui est allée peut-être vers quelque chose de plus en plus baroque, de plus en plus peut-être lié à la nature, des questions queer aussi. Le projet initial était un western plus surréaliste, mais tout de même ancré dans une réalité, l'Amérique du Nord, des pionniers au début du XXe siècle. Et moi, j'ai voulu en faire un western complètement hybride. Hein. Du western, il ne reste plus que quelques traces. En réalité, c'est un film de science-fiction et de fantasy. Et donc, je pense que depuis 18 ans, oui, je suis allé de plus en plus vers la fantasy et les fantasmagories.
À l'origine, casting quasiment masculin.
Oui, à l'origine, le western était quasiment une inversion de ce casting qui est présent avec exclusivement des actrices. Il y avait quelques figures féminines. Et puis, il y avait aussi l'idée de faire jouer à une femme, en l'occurrence Katia Golubeva, le rôle d'un homme, quoi, d'un père. Ces actrices, acteurs avec qui j'ai commencé à travailler, Guillaume Depardieu, j'avais approché Maurice Garrel aussi, il y avait Tina Aumont et Katia Golubeva, je les ai vus disparaître au fil des années, ce qui m'a profondément attristé. Puis ce film ne pouvait pas se faire, donc j'étais dans un deuil total de gens que j'aimais beaucoup et d'un film qui pour moi n'allait peut-être pas voir le jour. Mais comme je suis pas fataliste, j'ai décidé de donner un coup au destin et de reprendre ce scénario et de lui donner une deuxième jeunesse, de l'adapter à moi-même. Et peut-être que finalement, ce film, ce projet n'attendait que ça, que je le révèle, quoi, que je l'amène ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait en réécrivant. Et les morts du film, en quelque sorte, sont présents dans le film, puisque j'ai donné une place assez importante à Afterglow, au monde des morts et au monde des esprits. C'est comme si, finalement, ce film attendait, parce qu'il attendait une écriture qui n'était pas complète. C'est comme ça que je le traduis maintenant. Je me disais, non, mais c'est normal que le film ne pouvait pas se faire, parce que ce n'était pas tout à fait moi, quoi.
C'est quoi ça? Sors-moi. Si tu me sors de là, je ferai naître tes désirs enfouis.
C'était mon petit apocalypse. Ça a été difficile parce qu'on a beaucoup tourné dans des décors naturels en hiver, des décors qu'on a agrémentés de décors construits, puisque je fais tout au tournage. Et les lieux que j'avais choisis, c'était en Aquitaine, hein, c'était pas à l'autre bout de la planète, mais c'était quand même des lieux difficiles d'accès, qui étaient battus par les intempéries. Sur les plages de la pointe espagnole, quand on a tourné, il y avait des tempêtes absolument délirante, donc les décors qui s'envolaient, les points aussi sur les plages où on allait tourner étaient assez difficiles d'accès, et c'était un petit peu le cas pour tous les décors que j'ai pu choisir. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, des décors pas faciles d'accès, donc ça a été dur. Moi-même, je suis passé par des moments de doute et d'angoisse extrême, mais on y est arrivé. Et on a fini en studio, du moins dans un faux studio qui était des hangars du côté de Brive, qu'on a aménagé comme tel. Et là, ça a été un peu la délivrance à ce moment-là, hein, quand la deuxième partie du tournage, quand on était en studio, même s'il n'y avait pas de chauffage, on était tout de même, on avait l'impression que c'était les vacances par rapport à la première partie.
C'est quoi ça? Sors-moi. Si tu me sors de là, je ferai naître tes désirs enfouis.
C'est la confrontation entre une mère et une fille, mais la fille est le moteur du récit. C'est un personnage qui est né sur cette autre planète, donc qui n'a pas connu la Terre, qui ne connaît que ce qu'elle a, c'est-à-dire une société avec une communauté, avec des règles un peu rigides, même carrément rigides. Et cette jeune fille n'a presque pas de notion du bien et du mal, quoi. Elle s'affranchit de ses règles et elle va s'ouvrir comme une fleur en étant ouverte à toutes les expériences. Elle est quand même renvoyée beaucoup à sa solitude, et elle entraîne la mère dans cette aventure, et c'est quelqu'un qui est dans la vie, quoi, qui a soif de vie et qui va s'ouvrir aussi sur l'autre monde, le monde des morts, quoi.
D'ailleurs, on peut se demander si l'initiation n'est pas aussi l'initiation de l'autre, de la mère.
Ah ben complètement, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément le plus âgé qui va initier le plus jeune. Je supporte pas tout ce qui est manichéen, donc je pense qu'un personnage négatif doit avoir forcément des côtés positifs, parce que je vois le monde comme ça, et inversement, quoi. Mais ça aussi, il y a plusieurs héritages, mais dans les héritages qu'il y a dans ce film, c'est l'œuvre de Miyazaki, dans la forme, mais dans le fond aussi. ce que j'adore chez Miyazaki, c'est qu'il n'y a jamais il y a jamais de méchant en réalité chez Miyazaki. Tous les personnages ont une chance, quoi. Et je trouve que ça enrichit forcément le récit et ça permet de montrer ce qu'est la vraie vie. C'est quelque chose de très ambigu.
Paradisal, quelque part, il y a quelque chose de l'Odyssée, quoi. Enfin, c'est et on a l'impression que tu travailles sur le mythe, mais en essayant de lui retirer les archétypes.
L'histoire immortelle, quoi, le récit universel, quelque chose qui peut se lire, qui pourra se lire dans le futur, qui pouvait se lire dans le passé. Ça m'intéresse beaucoup d'être dans un récit débarrassé, j'allais dire, de tout ce qui pourrait l'encombrer par rapport au monde contemporain. Et il y a quelque chose de l'ordre du mythe, parce que le personnage de Kate Bush, par exemple, renvoie au génie des mille et une nuits ou au sphinx. Voilà, il y a ces personnages symboliques qui font avancer les récits et qui révèlent beaucoup de choses aux personnages et qui parlent du monde, des autres mondes. Il y a forcément toujours une dimension politique dans ce que je fais, en tout cas dans les longs, je pense. Dans Les Garçons Sauvages, c'était le rapport à la punition, hein, comment on punit des criminels. Et moi, je suis plus pour la révélation que pour la punition. Dans After Blue, on est dans un contexte d'une société qui se réorganise, qui essaye de ne pas refaire les mêmes conneries que sur Terre, mais tout de même qui impose des règles. Bah, c'est la dérive des règles, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, d'une certaine rigidité par rapport à ces règles. Et le personnage principal que l'on suit, hein, Zora et sa fille, voilà, c'est la coiffeuse de la communauté, donc elle fait peut-être un des métiers les plus bas de gamme dans ce contexte de communauté, puisque tout le monde a les poils qui poussent, donc il faut à tout prix qu'il y ait des coiffeuses. Et elle est un peu rejetée aussi du groupe, d'autant plus qu'elle a un accent, donc on sent qu'elle est dans ces communautés, on reconstitue des univers comme ça par pays, on sent qu'il y a aussi une façon de lui montrer que elle n'est pas originaire de la communauté. Et elle est toujours envoyée à sa classe sociale, Zora, hein, donc quand elle est dans sa communauté, on est un peu méprisant envers elle. Quand elle rencontre les artistes dans les sommets, qui sont plutôt bienveillants avec elle, qui s'occupent d'elle, il y a tout de même ce rapport de classe où on la renvoie toujours à ce qu'elle est, une coiffeuse, c'est-à-dire pas une artiste, etc. Donc oui, ça c'est quelque chose que je dénonce. C'est pas le sujet du film, mais que je dénonce, quoi. C'est cette façon de renvoyer toujours les gens à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, et les juger au travers de ce qu'ils font et ce qu'ils sont.
D'ailleurs, pour éviter, enfin, tu aurais pu rentrer dans le cliché d'une planète féminine donc idéale. Or, ce que tu montres, c'est justement, elle reproduit finalement pas mal de la conception masculine, y compris de machisme, à l'intérieur même de leur communauté féminine.
Mais dans cette planète au féminin, il y a des choses formidables, des choses qui sont mieux, selon moi, que si c'était une planète totalement masculine. Mais le problème qui est inhérent à l'humain, et presque aux espèces vivantes, quoi, c'est le rapport du dominant au dominé. Et cette dynamique-là, malheureusement, elle est présente partout, et là, sur cette planète, c'est la même chose. Donc finalement, ces communautés de Fabre reproduit ça, cette histoire du dominant et du dominé, et donc il y a forcément des personnages qui en bavent, hein, et qui sont diminués, quoi, par rapport aux autres.
La Terre, elle était malade. Alors on a trouvé After Blue.
Merci notamment à Olivier, merci Yann, et puis surtout à Olivier Rossignol pour cette interview assez passionnante. Et on termine donc avec l'audioblique sur les musiques de Penderecki.
Christophe Penderecki. Ça fait partie des gens dont on entend souvent dire qu'on ne les présente plus, Mais j'aime pas trop dire ça parce que finalement, bah, y a peut-être des auditeurs probablement qui ne connaissent pas, qui n'ont peut-être même pas entendu parler de Krzysztof Penderecki, quelle que soit l'importance du personnage. Alors, une présentation assez courte, hein, on ne fait pas dans l'exhaustif. Penderecki est né en 1933 en Pologne, il est décédé en 2020, en Pologne également. Il a une formation classique à Cracovie dans les années 40-50 et puis il découvre les avant-gardes européennes surtout. Et il va vite devenir une figure emblématique de ces avant-gardes dès le début des années 60 avec des partitions un peu choc majeures. On peut citer par exemple la traîne pour les victimes d'Hiroshima, son premier quatuor à cordes aussi assez remarqué. Et quelqu'un qui signale, en fait, en dehors des écoles principales, comme l'école sérielle ou l'école minimaliste de l'époque, un petit peu comme un Ligeti en Hongrie. Après cette partie avant-garde, il va un petit peu changer de bord, il va revenir à quelque chose de plus classique, néoclassique, diront certains. Il y a l'inspiration religieuse, la liturgie catholique qui va beaucoup le préoccuper à partir du milieu des années 60 avec notamment une œuvre comme la Passion Saint-Luc. Et puis retour de plus en plus là aussi vers un classicisme hérité des grands compositeurs 18e, 19e. Mais on trouvera toujours quand même une dualité assez intéressante entre le classique et le moderne. Alors à noter aussi, c'est que Penderecki a été, en plus d'un compositeur marquant, a été toujours, et jusqu'à la fin de sa vie, un très très grand chef d'orchestre. Alors on va évoquer ce soir quelques contributions remarquables pour le cinéma. Et la première, c'est un film polonais, un film étonnant. C'est l'adaptation du roman de Jean Potocki, le manuscrit trouvé à Saragosse. Et c'est un film qui a été réalisé en 1965 par Wojciech Haas, la musique Krzysztof Penderecki. Voilà, dans ce premier extrait, un extrait de la bande originale du film, donc le film Le manuscrit trouvé à Saragosse, on entend cette dualité entre un aspect électronique expérimental au début et puis quelque chose de beaucoup plus classique qui fait très musique de film avec cette petite valse qu'on entend, qui est idéale un petit peu pour le climat assez onirique de ce film. On va passer un petit peu à autre chose avec justement l'aspect plus avant-garde européenne du début des années 60. Il y a des œuvres vraiment marquantes à cette époque-là qui utilisent beaucoup les glissandi et les clusters, les groupes de notes parfois un peu aléatoires. Et ça, c'était assez idéal pour créer des atmosphères assez angoissantes et particulièrement adaptées au climat un peu malsain de films. Disons que ça va beaucoup intéresser des gens qui vont se pencher sur le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur. Et on va entendre un extrait de la bande originale du film. Là, pour le coup, ce n'était pas une musique que Penderecki a écrite pour le film. C'est une musique qui a été utilisée pour le film de William Friedkin, le fameux L'Exorciste, en 1973. Et pour ce film, il a utilisé la partition de 1961 qui s'appelle Polymorphia. Voilà la musique très très conviviale de Christoph Mendelsky pour le qui a été utilisée pour l'exorciste de Friedkin. Vous avez peut-être reconnu, ça vous parle peut-être, il y a un autre film très célèbre qui utilise exactement la même scène. Hein, je ne sais pas si ça vous parle autour de la table, un film que, dans une fameuse scène de montée d'escalier assez angoissante où un personnage un peu en perdition morale, vous n'avez pas reconnu?
Non, moi ça me faisait penser
à Shining. C'est dans Shining. C'est la scène de la montée d'escalier où Nicholson commence à devenir particulièrement violent à l'égard de sa femme. Voilà, c'est exactement cette musique-là. Alors, on parle de The Shining parce que The Shining utilise une autre musique de Pendelechki qu'on va écouter maintenant. C'est un extrait de la. Alors, le titre s'appelle soit Le rêve de Jacob, soit Le réveil de Jacob. Dream or Awakening, on voit les deux. Il semblerait qu'effectivement, après un rêve, il y a aussi un réveil. Donc maintenant, un extrait de la musique utilisée pour The Shining de Stanley Kubrick. Voilà donc un extrait de la musique de Shining de Kubrick, musique de Pendelechki. On va terminer avec un dernier extrait en revenant à quelque chose d'un petit peu plus doux et épuré pour un film étrange. C'est la contribution de Monsieur Alain René au genre de la science-fiction. C'est un film qui s'appelle Je t'aime, je t'aime, qui a été réalisé en 1968. Et là, c'est une musique originale parce que, comme pour le manuscrit trouvé à Saragosse, hein, parce qu'effectivement, les Exorcistes et Shining, c'était pas des musiques originales. Voilà. Donc Je t'aime, je t'aime en 1968. La musique, c'est un chœur mixte. On retrouve cette dualité entre la modernité et puis des structures beaucoup plus classiques. On entend presque un héritage de Jean-Sébastien Bach dans cette musique-là.
Se termine. Alors, juste rapidement, si vous avez un conseil d'un film, d'un DVD, peu importe.
Allez voir Viens, je t'emmène. C'est pas une nouveauté. Il est sorti depuis quelques temps, le dernier film d'Alain Guéraudy.
Et moi, en pensant au manuscrit à Saragosse, hein, qui est un peu construit comme un millefeuille avec des récits dans le récit, je vous conseille un film aussi, une sorte de giallo conçu sur les rêves, L'œil du labyrinthe de Mario Caiano, distribué par Artus Film. Donc voilà, toute l'équipe se joint, merci à vous deux. Et
merci.
Et toute l'équipe se joint à moi donc pour remercier donc Anna La Technique, Utopia, l'association L'écran et son double, Olivier Rossignol et Culture au Point, Justine Divergence, Artus Film, Yann et Justine. Bonne semaine.
Au revoir, à bientôt.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.